Il n'a pas l'intention de changer de politique. Donc nous ne changerons pas de débat.
Je serai d'une détermination absolue.
C'est une erreur grave.
On n'est pas des violents, on est juste en colère.
Je vous ai compris.
État et civil.
Échange, débat,
dialogue.
Que fait l'État?
Quelles sont les propositions des civils?
L'émission qui réunit élus, représentants de l'État et citoyens.
C'est État et civil.
Tous les mercredis de 11h à 11h30
sur LFM.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes mercredi, c'est Aurélien Bayard et il est 11h, ce qui signifie que c'est notre rendez-vous hebdomadaire pour État et civil. L'émission qui réunit l'État, les collectivités, les associations et les auditeurs pour parler et dialoguer à propos de thèmes de société qui nous concernent tous. Aujourd'hui, nous allons traiter la pénurie d'enseignants dans tous les secteurs de l'éducation. Pap Ndiaye a promis au cœur de l'été l'embauche de 3000 recrues supplémentaires afin qu'il y ait bien un professeur devant chaque classe. Oui, mais à quel prix? Petites annonces dans la presse locale, organisation de job dating, formation en 4 jours de ces aspirants profs prêts à se lancer sans filet ou presque dans l'aventure. D'autres promesses ont été mises sur la table comme la revalorisation salariale. Pour comprendre ce manque, nous avons interviewé Evelyne Diana Brass, secrétaire générale de la FSU 78. Avant de démarrer cet entretien, Alain Erker, le conseiller principal d'éducation du lycée Edmond Rostand, raconte comment une rentrée a toujours son lot de surprises.
Est-ce que c'est difficile dans un établissement de composer cette équipe?
Je pense que ça devient de plus en plus difficile. Comme je disais, cette année, c'est la première année depuis longtemps où il manque un seul enseignant pour l'instant. Ah, je parle de Rostand, hein. Comme disait le collègue avant, il en manque partout, forcément, avec le nombre qui manque. Mais forcément, le problème des absences d'enseignants, ça tombe forcément sur la vie scolaire, puisque les élèves sont là et les enseignants ne sont pas là. Donc il faut qu'on gère. Alors on a des surprises. Je pense, moi, fin de septembre, je pense qu'on aura les vrais chiffres de ce qui a manqué au début d'année.
Et comment on gère ces problèmes dans l'urgence?
Comme toujours, dans l'urgence. On trouve un lieu pour mettre les élèves, on attend qu'ils aient l'heure suivante. L'avantage du lycée, c'est qu'ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. Alors qu'un collège, ils sont là et on garde toute la journée.
LFM Radio 95.5.
C'est dorénavant au tour de Evelyne Diana Brass de dresser le constat qui a amené cette pénurie.
LFM Radio 95.5.
Donc nous accueillons Evelyne Diana Brass, la secrétaire départementale de la FSU 78, afin de comprendre pourquoi il y a cette pénurie de professeurs qui peut-être touche tous les établissements de la maternelle jusqu'au lycée. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. Donc, pour commencer, les chiffres sont tombés, il manque plus de 4000 professeurs en 2022. Depuis quand date cette pénurie?
Alors la pénurie, elle date depuis effectivement plusieurs années. On ne découvre pas cette année les difficultés de recrutement. Il n'y a rien de magique. Ça fait des années que les politiques qui sont mises en œuvre sont des politiques de restriction budgétaire. Et donc, de fait, les services publics sont touchés de plein fouet et l'éducation nationale est touchée également, comme l'est d'ailleurs l'hôpital. Et l'état de service des urgences en témoigne malheureusement.
Et pourquoi cette politique de restriction budget?
Alors, moi, mon analyse à moi, ce serait de dire qu'effectivement, on est dans une réflexion à court et moyen terme plutôt qu'à une réflexion à long terme. L'importance de l'école pour tous comme moyen émancipateur et permettre effectivement de choisir sa vie d'adulte dans les meilleures conditions possibles, tout le monde en est convaincu. Maintenant, si on ne se donne pas les moyens de le faire, ça devient compliqué. Et après, ce qui devient encore plus compliqué, c'est est-ce qu'on a la volonté de le faire, la volonté politique? Quel est l'intérêt effectivement qu'on peut trouver à ce que tous nos jeunes n'aient pas un niveau, on va dire, d'études suffisamment important pour pouvoir faire des choix ensuite dans leur vie d'adulte librement? Après, il faut simplement permettre à chacun d'avoir le choix d'aller vers ce qui lui convient. Et le rôle de l'école, me semble-t-il, c'est ça. c'est de permettre à chacun d'avoir le choix d'aller vers ce qui lui conviendra, que ce soit caissière ou que ce soit garagiste ou enseignant ou pourquoi après, pourquoi pas, ministre de l'Éducation nationale, mais ça, je ne le souhaite à personne.
Quand même, est-ce que cette pénurie touche tous les secteurs de l'éducation ? Est-ce que c'est plutôt dans le primaire, dans le secondaire, général, technologique, ou finalement, voilà, tout le monde, tous concernés par ce souci ?
Alors, tous concernés par ce souci, malheureusement, et je pense que cette année, les chiffres le prouvent. Ce qui est vrai, c'est que c'est peut-être plus visible dans le premier degré, parce que là, effectivement, lorsqu'un enseignant est absent, les parents se trouvent confrontés au manque de remplacement, ce qui va effectivement amener d'autres difficultés qui vont être soit les parents vont devoir s'organiser, soit les enfants vont être répartis dans les autres classes avec tout ce que ça implique de dégradation de l'enseignement qu'on va pouvoir apporter à ces classes. Et là encore, la Covid a été un révélateur, puisque jusque-là, dans le premier degré, on était dans répartir les élèves, puisqu'on n'a pas le droit, l'obligation scolaire existe et on n'a pas le droit effectivement de déroger à ça, et fort heureusement. Mais avec la Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que puisqu'il n'y avait pas de brassage possible pour la sécurité de tous, eh bien on a eu des classes fermées, des écoles fermées, et là on s'est rendu compte que même si effectivement l'absentéisme était lié là à une problématique exceptionnelle, il n'en demeure pas moins le fait de ne pas répartir a montré à quel point, lorsqu'on n'est pas remplacé, il y a de vrais problèmes. Ce que dans le second degré est peut-être moins visible. Alors, un petit peu plus au collège, mais encore que les élèves vont rester en salle de permanence. Et puis après, au lycée, puisqu'ils ont cette possibilité d'entrer et sortir, ils sont beaucoup plus grands. Donc là encore, la problématique familiale est moins posée, puisqu'il y a moins de problèmes de garde, parce qu'il faut quand même en parler pour les familles.
Et est-ce que quand il y a ces problèmes de garde, c'est plus un parent qu'un autre qui se dévoue ?
Alors là, vous êtes en train de me parler de l'égalité homme-femme ?
Par exemple.
Par exemple. Alors oui, bien sûr, on connaît les chiffres. Ce sont les femmes, les premières, qui vont rester à la maison pour garder les enfants. Alors, et à ça, il y a d'ailleurs plusieurs raisons. Déjà parce que bien souvent, ce sont elles qui ramènent un moindre salaire. Et que de fait, du coup, leur travail peut paraître comme moins important. Donc, ça va être elles qui vont le faire. Après aussi, ça dépend. Il faut être honnête du travail qu'on fait, quoi. Parce qu'il y a certains endroits où on peut se permettre des choses, du travail notamment à la maison, ce qui s'est beaucoup développé là aussi avec la crise Covid. Mais il ne faut pas non plus oublier que travailler, même à la maison, c'est-à-dire en télétravail, ne se fait pas avec un petit enfant à garder. On l'a vu, il y a beaucoup de familles qui se sont rendues compte de la difficulté que ça peut être de faire les cours à la maison. Et ce qui est tout à fait normal. Je veux dire, chaque métier a sa spécificité. Et moi, demain, je n'irai pas réparer une voiture. Ou alors, je n'aime pas du tout la personne à qui je réparerai la voiture.
Mais puisque vous parlez quand même de vocation, est-ce que c'est encore vrai de dire « Tiens, je me réveille un matin et j'ai envie de faire professeur ?»
Si c'est... Vaut mieux pas se réveiller un matin et avoir envie. Je pense que c'est quelque chose qui date de très longtemps. Mais la vocation, elle est toujours là. Elle est toujours ancrée au fond de la majorité d'entre nous. Ça, c'est clair. Parce que c'est pas du tout le métier... qu'on imagine, je pense, pour ceux qui ne le connaissent pas. On fantasme beaucoup sur le métier d'enseignant. Alors parce que on travaille avec des enfants, des élèves, des ados, des jeunes, et que donc forcément c'est plutôt agréable, qu'on a beaucoup de vacances, donc ça c'est merveilleux. Et puis a priori on a tous les avantages des fonctionnaires. Alors effectivement, quand on passe derrière le miroir, il peut y avoir des déceptions. C'est pour ça que je dis que oui, il faut vraiment avoir envie de faire ce métier, parce que sinon on n'y reste pas. C'est pas possible. C'est impossible d'y rester. Et aujourd'hui, la dégradation qu'on connaît, qui n'est pas nouvelle, hein, malheureusement, mais qui s'est accentuée de manière gravissime et avec vraiment beaucoup, beaucoup d'inquiétude de notre part. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai des collègues qui sont très impliqués dans leur métier, qui adorent leur métier, qui en parlent avec beaucoup de passion et qui me disent aujourd'hui, je ne sais pas si je vais continuer, pas parce que j'ai perdu foi en l'enseignement et en la transmission que je fais et que je donne à mes élèves, mais parce que j'ai perdu foi en mon institution. Et ça fait un peu mal au ventre.
Bah, comment on pourrait récupérer ce lien avec l'institution d'ailleurs ?
Alors, déjà, il faudrait déjà redonner. Alors, comment je dirais ? Il y a très 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 longtemps, parce que moi je suis quand même dans la profession depuis très longtemps maintenant. Je suis plus proche de la retraite, beaucoup plus proche de la retraite que de mes débuts. Et c'est vrai que quand j'ai commencé dans l'éducation nationale, j'avais encore en tête cette image de l'enseignant respecté, qu'on regardait avec des yeux il a le savoir, il va m'apprendre des choses. L'école, c'est sortir de la maison. Il y avait tout ce côté comme ça magnifique. Et puis le respect des parents, des familles. Parce que il y avait le respect de la société en général, c'est-à-dire que c'est pas les parents qui ne respectent plus les enseignants, c'est qu'aujourd'hui on a effectivement des politiques qui se succèdent et qui entachent vraiment notre profession. Entre eux, des petites phrases assassines, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un bac plus 5 pour changer des couches en maternelle, j'en ai des tonnes, des petites phrases comme ça, et très vite on a vu que forcément ça a un impact sur les parents, puisqu'il y a une perte de confiance dans la personne à qui on confie son enfant, et confier son enfant c'est quand même la chose, me semble-t-il, hein, la plus inquiétante à la fois. Je veux dire, on confie ce qu'on a de plus cher quand on confie son enfant. Et il faut que la personne à qui on confie son enfant, on soit en toute confiance. Et aujourd'hui, cette confiance, elle est rompue, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pas avec tous, pas avec tous les parents. Je dirais même que souvent, dans les milieux dits populaires, moi qui travaille en réseau d'éducation prioritaire, la confiance qui est assez... peut-être surprenant, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, elle est encore là. Sans doute parce que la conscience de l'importance de l'école sur l'avenir de leurs enfants, elle est prégnante. Je ne suis pas en train de dire que travailler à Versailles, c'est moins sympa que de travailler au Valfouré, parce qu'il y a sûrement des gens charmants à Versailles, je ne veux me mettre personne à dos, mais par contre, en ce qui est de la confiance, là, je ne suis pas certaine. J'ai déjà entendu des remarques, hein, de toute façon, à part les vacances, il n'y a que ça qui compte pour vous, de revérifier des corrections, je ne suis pas d'accord avec vous, enfin, des remises en question qui sont assez surprenantes, voilà. Même si la remise en question, c'est quelque chose de positif dans notre métier, mais quand c'est une perte de confiance, ça ne l'est plus du tout.
Puisque cette perte de confiance a quand même peut aussi entraîner cette pénurie et cette difficulté à recruter. Voilà, pour aller chercher des professeurs, les mots utilisés sont puisés dans les listes complémentaires des concours. Pourquoi ce concours de professeurs des écoles donne l'impression de participer à ce souci, à cette pénurie ?
Alors, le souci de pénurie, c'est un peu tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à moins d'être comme moi, un petit peu d'une génération autre, où effectivement on était attaché, on est attaché à notre métier, à tout ce que ça va nous procurer. Moi, je peux comprendre que des collègues qui ont bac plus 5, voire davantage, qui ont d'autres amis, hein, qui ont fait les mêmes études, qui sont à des postes tout autres et qui touchent des salaires qu'on peut multiplier, et je ne vais même pas être excessive en disant par deux, voire par trois. Alors, c'est pas la seule raison, mais en tout cas, c'est clair que quand vous êtes mal payé et qu'en plus vous êtes maltraité, oui, forcément, ça donne pas envie. On n'a pas envie.
Il n'y a pas des choses à repenser pour le concours ?
Si. Je pense que déjà, la hausse des salaires, ça, c'est déjà la première des choses. S'attacher effectivement aux conditions de travail, ça passe aussi par des choses aussi simples que de mettre enfin en place une médecine du travail, parce qu'il faut quand même savoir que l'éducation nationale, on n'a pas de médecine de travail dans le sens où on n'a pas de suivi. Vous avez une visite médicale quand vous entrez dans l'éducation nationale. Moi, ça fait 30 ans, je n'ai jamais vu un médecin, un médecin professionnel qui m'a convoqué pour une visite médicale. On est quand même en rapport avec des jeunes enfants. Voilà. Donc il y a des choses qui sont quand même aberrantes. On n'a pas de service médical. Tout ce qui est service social, c'est peau de chagrin parce qu'on a deux psychologues sur l'ensemble du département. C'est totalement insuffisant. Enfin, c'est même pas insuffisant, c'est que de toute façon, c'est impossible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit les assistantes sociales, les psychologues du travail, ce genre de personnel, on ne les voit que quand on est arrivé dans une situation où on est soit déjà malade, soit dans une problématique qui, de toute façon, ne permettra pas de retrouver un équilibre serein. C'est trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire court, la prévention n'existe pas chez nous. Voilà. Alors, effectivement, je ne dis pas que dans le privé, tout est rose. Mais de fait, il y a des obligations qui sont là, pour le coup, suivies, me semble-t-il. Alors, pas partout, sûrement, là-dessus, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est quand même incroyable, c'est que la fonction publique, qui devrait être exemplaire, ne met absolument pas en application ce qui, pourtant, est obligatoire.
Et c'est ça qui vous donne la sensation que le métier d'enseignant soit plus poussé vers le privé que vers le public ?
Clairement. Et de fait, après, il y a aussi effectivement l'image véhiculée. Alors cette image véhiculée, elle est essentiellement faite par les politiques.
Parce que les stéréotypes, ça peut jouer dans aussi l'envie des personnes de s'intéresser à ce métier.
Oui, je pense. Je pense que presque toutes les petites filles, à un moment donné, et les petits garçons ont rêvé d'être maître ou maîtresse. Hein. Infirmier, infirmière, pompier, policier. Enfin voilà. Je suis pas certaine aujourd'hui si on faisait si on allait en maternelle ou en petite classe d'élémentaire de leur demander ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Je ne suis pas certaine du tout d'avoir ces réponses là.
LFM Radio 95.5.
Et voici déjà la fin de cette première partie d'État et Civil consacrée à la pénurie d'enseignants. Après un intermède musical, on se retrouve pour la deuxième partie de notre interview avec Evelyne Diana Brass, secrétaire générale de la FSU 78. Place maintenant à Kanye West pour le titre School Spirit.
Écoute le meilleur son d'hier et d'aujourd'hui sur le 95.5.
Pimps gon' talk, ooh, hecky no, that boy is raw. AKA Step, Delta Step, SGO Step, Zeta Step, gangsters walk. Pimps gon' talk, ooh, hecky no, that boy is raw. I'ma get on this TV, mama, I'ma put this down. I'ma make sure these light-skinned niggas never, ever, never come back in style.
told them I finished school and I started my own business. They say, oh, you graduated. No, I decided I was finished chasing y'all dreams and what you got planned. Now I spit it so hot, you got canned. Back to school and I hate it there, I hate it there. Everything I want, I gotta wait a year, I wait a year. This nigga graduated at the top of our class. I went to Cheesecake, he was up for the month and waited there. Alpha step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. AKA step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no. I got a Jones like Nora for your Sora. Bring Mora, them girls I seen in the Aurora. Tammy, Becky, and Laura, Aura, Shirley. I'm tryna hit it early, like I'm in a hurry. See, that's that Doobie Kane, the young Pootie Tang, Tippy Tow. Rockefeller chain, yeah, that's my rapper style. Rosary piece, yeah, that's my Catholic style. Red and white ones, yeah, that's my Kappa style. And I ain't even pledged. Crack my head on the steering wheel, and I ain't even dead. If I can go through all that and still be breathing, it's been over, I'm here for a reason. Alpha step, Omega step, Kappa step, Sigma step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. AKA step, Delta step, SGO step, Zeta step, gangsters walk, pimps gon' talk. Ooh, hecky no, that boy is raw. I feel a woo coming on, cuz I feel a woo coming on, cuz there was. I feel some woos coming on, cuz a couple woos coming on, cuz there they was. I feel a woo coming on, cuz I feel a woo coming on, cuz there was. A couple woos coming on, cuz a couple woos coming on, cuz there they was.
LFM
95.5.
Nous voici de retour pour le second acte d'État et Civil où nous parlons de la pénurie d'enseignants dans tous les secteurs de l'éducation. Avant d'enchaîner avec la suite de notre entretien avec la secrétaire générale de la FSU 78, Evelyne Diana Brasse, Martine Dupré-Félix, ancienne enseignante dans le secondaire, explique la particularité du métier de professeur suppléant ou contractuel.
Tout d'abord, est-ce que c'est une volonté ou on se dit que c'est un passage obligatoire de passer par ce qu'on appelle être professeur suppléant ou contractuel ?
Non, c'est une volonté politique. En baissant le nombre de places au concours, de fait, ça laisse moins de places pour titulariser de futurs collègues. Et comme on a quand même besoin d'enseignants, on les contractualise plutôt que de les titulariser. Donc c'est une volonté politique. C'est un choix.
Est-ce qu'il y a quand même des avantages à être contractuel ou suppléant qu'en étant titulaire ?
Des avantages à très court terme. Et c'est, j'entendais Madame Diana Bra qui disait tout à l'heure que certains de nos collègues vont choisir de rester contractuels parce qu'ils vont avoir droit à une mobilité qui devient de fait impossible à nos collègues titulaires parce qu'on leur répond que par nécessité de service, ils ne peuvent pas mutés, ils ne peuvent pas avoir de temps partiel sur autorisation, leur droit à formation est diminué comme peau de chagrin, et nos collègues contractuels se réservent le droit, s'ils ont envie de partir pour un autre département, ils mettent fin au contrat, ils s'en vont là où ils ont envie d'aller enseigner, ou de faire autre chose d'ailleurs.
LFM Radio 95.5.
Place maintenant à la secrétaire générale de l'FSU 78, avec qui nous allons évoquer les solutions pour que le métier d'enseignant redevienne enfin attractif.
LFM Radio 95.5.
Alors on viendra plus tard sur les conséquences sociétales et sociales que peuvent entraîner cette pénurie. Mais je voudrais quand même revenir sur un cas assez particulier, voilà, qui est dans le monde de l'enseignement, c'est les contractuels ou les professeurs suppléants. Qu'est-ce qui pousse les établissements à les utiliser ?
Oh, le vilain mot.
mais il à les faire travailler.
Non, mais justement, je trouve que les mots sont importants et c'est vrai. Le terme employé est juste et c'est ça qui est triste. C'est utilisé, absolument. Ils sont utilisés. Utilisés pour boucher des trous. C'est gravissime dans ce que ça représente de manque de respect des élèves, des familles et des personnels. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de se demander, voilà, il y a une crise de recrutement, il faut absolument que nos chères petites têtes blondes, brunes, rousses puissent avoir l'instruction, l'éducation nécessaire. Mais on est en train de se dire, il ne va pas falloir que l'éducation nationale se trouve mise au tribunal administratif par des familles qui connaissent un peu le droit, parce qu'effectivement, l'obligation scolaire, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que les familles ont obligation à mettre leur enfant à l'école, mais l'institution a obligation d'offrir aussi les enseignants qui vont avec et l'instruction qui va avec. Et là, on a bien compris que l'institution, elle est défaillante.
Et est-ce que on pourrait éviter d'utiliser ce statut ?
Alors, éviter, moi, je ne sais pas, parce que des contractuels, il y en a dans tous les métiers. Au demeurant, moi, je ne trouve pas ça choquant en soi. Hein, voilà.
Il y a quand même des avantages donc à l'être ou
Non, c'est pas une question d'avantage, c'est que effectivement on est sur quelque chose qui est quand même très très difficile à gérer en termes de nombre de personnel. Il faut dire ce qui est et on peut être amené à des moments effectivement d'avoir des besoins pour répondre à une demande. Par contre, ce qui doit être effectivement l'exception. Une exception réfléchie, c'est-à-dire que quand on prend une personne effectivement contractuelle, ça veut dire qu'on a déjà réfléchi à comment cette personne contractuelle pourra, si elle le souhaite, rester dans l'éducation nationale à partir du moment où elle témoigne de ses capacités à rester en passant un concours. Et puis si elle en a envie, parce qu'après tout, on n'est pas non plus obligé d'en avoir envie. Et ça, c'est pas pensé. Voilà, donc là, on nous parle effectivement, vous avez dû entendre d'un recrutement qui va être mis en place justement pour ces personnels. Là aussi, la manière dont les choses ont été dites, on aurait pu s'en ravir, sauf que dans un coin de phrase, on a entendu « pour le premier degré ».
Donc ça ne couvre pas tout le monde.
Donc ça veut dire que tous ceux qui ne seront pas dans le premier degré, donc collège, lycée, ne sont pas concernés pour le moment, en tout cas par ce concours. Alors pas hypothétique, parce que là pour le moment on est dans les mots, on est beaucoup dans les mots hein, chez nous, il faut le savoir.
Et puisque vous parlez recrutement quand même, cet été, on est obligé d'en parler, cet été il y a eu des job dating pour recruter des contractuels, si je ne me trompe pas.
C'est absolument ça.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est d'une tristesse, enfin, je trouve ça triste pour notre métier, mais en même temps c'est tellement scandaleux d'avoir rien que l'idée, pour moi déjà, elle est en contradiction avec ce qu'est l'éducation nationale. Voilà, avec ce que sont les missions de l'éducation nationale et ce que doit être l'éducation nationale. Donc quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Donc sauf erreur de ma part, ça avait été mis en place par notre rectrice.
Oui, c'est vrai que c'était à Versailles.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu ailleurs, mais elle a ouvert le bal. Effectivement, à part vous dire que elle n'a jamais enseigné, elle ne connaît pas l'éducation nationale et c'est pas du tout un reproche que je lui fais. Hein. Elle connaît beaucoup mieux le privé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on ne peut pas effectivement, on peut pas déporter des choses comme ça sur d'autres en se disant non, c'est pas possible ça. Donc écoutez, ça a valu en tout cas pour un de nos syndicats, le SNES FSU, qui est donc syndicat du second degré, des choses assez amusantes. Au moins on a eu des choses assez amusantes du genre je ne perds jamais au docteur ma boule, je peux donc me proposer pour être chirurgien. Voilà, donc c'était une petite boutade, histoire de dire voilà ce que nous on se disait dans les couloirs, histoire de ne pas pleurer, parce qu'à un moment donné il faut bien être aussi un peu dans la dérision, sinon vous démissionnez, et malheureusement ça aussi c'est un vrai sujet. Nous n'avons jamais eu autant de démissions de personnes titulaires, là j'entends, de fonctionnaires de notre métier.
Parce qu'ils sont au bout du rouleau.
Parce que, alors, Pas forcément, parce que je dirais que quand on est au bout du rouleau, malheureusement, bien souvent, on n'a même pas cette force-là. Mais plutôt parce qu'ils sont déçus, arrivés à une déception telle de ce qu'était leur métier, la vision de leur métier, et qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce que j'ai envie, moi, aujourd'hui, de continuer à cautionner ce qui est en train de se passer ? Eh bien, certains décident de s'en aller. Et là, je vous parle de collègues, je pense à une notamment qui démissionne à 50 ans.
On va quand même essayer de trouver des solutions, parce qu'on voit que oui. Quand on dresse le tableau, le tableau n'est pas très joyeux. Puis vous parlez de formation, les syndicats disaient qu'il y avait une sacrée différence entre la formation initiale et les premières années de...
Nous, la FSU et les syndicats d'enseignants qui la composent ne sommes pas du tout sur l'immobilisme ou le fait de dire c'était mieux avant, on veut que rien ne change, absolument pas, bien sûr que non, on veut que ça change. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est que ça change pour que ce soit mieux pour les élèves, plus efficace pour les élèves. Et normalement, le progrès, c'est aussi les conditions de travail des personnels soient meilleures. Enfin, j'imagine que c'est quand même comme ça qu'on voit l'avenir. Et là, pour le coup, on n'est pas du tout là-dedans, ça c'est certain. Du coup, j'ai oublié la question.
Le gap entre la formation et la réalité du terrain.
Oui. Alors, nos collègues, ils n'ont jamais été très satisfaits de la formation. Il faut dire ce qui est. Que ce soit la formation initiale ou que ce soit la formation continue, qui est extrêmement limitée, hein, la formation continue. Et puis, la formation initiale, effectivement, c'est très théorique. Il y a beaucoup de points qui ne sont pas abordés ou alors de manière extrêmement succincte. Enfin bon. Donc il y a beaucoup de choses à revoir dans cette formation. Moi, je crois beaucoup à la formation entre pairs, là pour le coup. Mais là encore, pas du tutorat, sur le papier, où il y en a un qui est assis au fond de la classe et puis l'autre. Non, c'est pas ça pour moi. Je pense que ce qui est mis en place justement dans les zones d'éducation prioritaire, enfin dans les REP, il y a un travail qui avait été mis en place. Je dis qu'il y avait parce que la Covid a mis à mal ça et puis l'absence de remplaçants, bien évidemment. Mais il y a un temps qui est donné qu'on appelle les temps de pondération. Et sur ces temps de pondération, les équipes se retrouvent par rapport à des sujets, des sujets pédagogiques précis, et échangent entre eux sur les pratiques, leurs pratiques. Et je trouve, moi qui ai pu y participer, je trouvais ça extrêmement enrichissant. Parce que là, pour le coup, on parle du concret, on parle de nos élèves, on parle de ce qu'on rencontre dans nos classes. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment l'autre fait. Et les solutions, elles se trouvent comme ça. C'est-à-dire que tout seul, on fait ce qu'on peut. Le collectif est beaucoup plus riche. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait développer, mais pas que développer dans ces zones-là. C'est à développer partout. Donc ça, déjà, c'est compliqué parce que ça nécessite effectivement du temps donné à ces enseignants qui, lorsqu'ils sont sur ce temps, on a tous bien compris qu'ils n'étaient pas dans leur classe. Et donc là encore, on en revient à la même chose. Pas assez d'enseignants. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de cette idée qui n'est pas une idée juste, que c'est une classe, un enseignant.
On sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être jouées, comme la revalorisation salariale, mais est-ce que, par exemple, aussi des classes plus petites, ça peut jouer dans l'envie d'enseigner ?
Alors, les effectifs, ça, clairement. Le problème d'effectifs, clairement. Quand on dit classe plus petite, vous me faites peur parce qu'elles sont déjà bien petites, les classes. Hein. On veut des grandes classes avec pas beaucoup d'élèves.
Alors, pas petites en termes d'espace, mais grandes en termes de nombre.
J'avais compris. Mais bien sûr, les effectifs, c'est très, très important. Alors, effectivement, à ça, on nous ramène toujours le fait que quand on est un bon enseignant, on doit être en capacité d'enseigner à beaucoup d'élèves à la fois et que c'est nos pratiques qui doivent être revues. Moi, je suis désolée de le dire, mais peut-être que je ne suis pas une bonne enseignante, mais il est clair que moins j'ai d'élèves, effectivement, plus je peux être au plus près de chacun d'eux et des besoins de chacun d'eux. Alors quand je dis moins j'ai d'élèves, effectivement, il faut rester sur un groupe fédérateur. Sinon, ce n'est pas suffisamment riche. Mais effectivement, autour des classes de 20, 22, 23, voilà, c'est des classes tenables. Au-delà, il faut dire les choses. Et la majorité est au-delà, hein, faut quand même être clair là-dessus. Non, on ne fait pas le même travail. On ne fait pas le même travail, non pas parce que notre qualité est moins bonne de ce qu'on va donner, mais parce qu'effectivement, les moyens là ne sont pas réunis. On ne peut pas, c'est pas possible. Et je ne parle pas là, bien sûr, de l'inclusion d'élèves porteurs de handicap qui ont toute leur place à l'école, qui sont même un enrichissement de l'école, à la condition qu'effectivement on leur apporte ce dont ils ont besoin. Et justement, les effectifs pour ces problématiques-là sont très importantes. Un élève qui a des troubles du comportement, des troubles autistiques, effectivement, va être extrêmement mal dans une classe où il y a beaucoup d'effectifs. Ça veut dire où il va être très serré, où il va être frôlé, où il va être à des moments bousculé. Il va être très réceptif au bruit, parce que c'est très problématique. Mais là, je dis ça pour ce type d'élève, mais en fait, c'est valable pour tous les élèves. Tous les élèves apprennent moins bien, forcément, dans le bruit, dans la promiscuité, dans un lieu qui est pas propice aux apprentissages, quoi. C'est aussi simple que ça. Et le bâti scolaire est une problématique là pour le coup dramatique et qui date là on est sur des décennies.
On va maintenant enchaîner avec les conséquences sociales ou sociétales que peuvent entraîner cette crise des enseignants.
Les premières victimes de cette crise, forcément, elles vont se retrouver chez les élèves des quartiers les plus populaires. Et quand je dis ça, je ne veux pas stigmatiser qui que ce soit, mais on a bien compris que ces quartiers-là n'étant pas attractifs, ceux qui vont s'y retrouver, forcément, vont être ceux qui auront le moins de formation. Là où précisément, il faudrait mettre des enseignants formés. Donc après, comment rendre attractif ? Alors, il y a justement le travail qui a été fait avec les REP, ça a été des effectifs réduits, 7 ans de pondération, il y a eu aussi des primes salariales, puisqu'il y a des... Voilà. Donc il y a des choses qui ont été mises en place. Et d'ailleurs, ça a eu des incidences. La preuve en est, moi je peux parler du Val-Fouré que je connais bien, du coup, où les places sont un peu chères pour nous les enseignants au Val-Fouré. Et je ne suis pas certaine qu'il y ait énormément de contractuels au Val-Fouré. Par exemple, je donne cet exemple-là.
Et pour finir, quelles sont vos attentes vis-à-vis de Pape Ndiaye, ne serait-ce au moins qu'un dialogue entre les syndicats et lui ?
Alors, en même temps, je répondrais que... ça va être terrible ce que je vais dire, mais enfin, je vais le dire quand même, après tout. J'attends plus grand-chose, honnêtement. Puisque au-delà du ministre, c'est une politique qui est menée. Donc de toute façon, tant qu'on ne sera pas dans une politique de recrutement, une volonté de faire en sorte que nos services publics fonctionnent parce qu'on est persuadé que ça a du sens pour le collectif et que ça apporte à ceux qui en ont le plus besoin, si on n'est pas dans... ce qu'on appelle le partage des richesses, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, moi j'entends bien qu'il va falloir mettre à 19 degrés le chauffage et puis éteindre la clim dans la voiture. Alors déjà, je pense que tout le monde n'a pas de clim dans sa voiture. Et oui, je sais, c'est une dure réalité, mais il y a un décalage quand même qui est énorme. 19 degrés, je ne suis pas certaine non plus qu'on ait ça dans nos écoles. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des écoles qui se retrouvent encore sans chauffage à des moments et d'autres où on ouvre les fenêtres en plein hiver. Parce que donc moi tout ça je peux tout entendre, mais à un moment donné oui ça agace énormément. Donc là on est sur un problème politique. Alors ce ministre, il a quand même le gros avantage de passer derrière monsieur Jean-Michel Blanquer, qui a été la pire catastrophe que moi j'ai pu rencontrer en tant que ministre de l'Éducation nationale. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit, j'ai rien dit. Ça ne changera rien sur le fond, mais déjà la forme est un tout petit peu plus buvable. Voilà. Mais la politique, elle reste complètement imbuvable.
Eh ben merci beaucoup Evelyne Dianabra d'être venue dans les locaux de l'FM pour nous parler des problèmes de pénurie des enseignants. Eh ben, je vous souhaite quand même une bonne continuation et bon courage.
Mais sans problème.
Merci beaucoup.
LFM Radio 95.5.
C'est la fin de ce numéro d'État et Civil consacré à la pénurie d'enseignants. Merci de nous avoir écoutés. C'était Aurélien Bayard et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro, même jour, même heure. Restez sur le 95.5 pour profiter de la bonne musique et retrouver Nawel à partir de 16h30 pour Level Up, puis Mallory de 20h à 22h pour du rap au mic. Bonne fin de matinée à tous et à toutes.
C'était État et Civil.
C'était État et Civil
sur LFM.